Yael Gauz, votre invité ce matin, est le ministre de l'Éducation nationale.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Yael Gauz.
Ministre de l'Éducation nationale, des sports et de la jeunesse. Là, je parle de la jeunesse étudiante, totalement absente hier soir des annonces qui ont suivi le Conseil de défense sanitaire. Primaire et secondaire, on a compris, ça reste ouvert, on rentre le 3 janvier comme prévu. Est-ce que ce sera la même chose dans les facs ?
Oui, Frédéric Vidal aura l'occasion de s'exprimer sur ce point, mais je peux vous dire qu'on a aussi débattu de la question, notamment la question des examens qui se pose beaucoup au mois de janvier, et ça a donc été tranché dans un sens présent de présence physique. Mais tous les détails seront donnés sur ce point comme sur d'autres.
Pas de jauge dans les amphis ?
En tout cas, à ma connaissance, non, mais c'est à Frédéric Vidal de le dire, c'est pas à moi de faire les annonces sur l'enseignement supérieur. En tout état de cause, vous le savez, ça suppose aussi des dialogues avec les présidents d'université, et donc ça va s'affiner au fil des jours.
Est-ce qu'il y a une difficulté pour le gouvernement à s'adresser à cette classe d'âge ? On parle depuis 2020 de générations sacrifiées, à qui on a promis que le vaccin allait les libérer, et deux ans après, qu'est-ce qu'on a ? Des discothèques fermées pour le réveillon, les concerts debout, c'est fini, la position verticale dans les bars, interdite, même un sandwich dans le TGV, ça va devenir compliqué. Il n'y a pas d'autre voie possible, disait Jean Castex hier soir. Est-ce que les jeunes, et plus largement les Français, vont adhérer à cela ?
Bon, d'abord, la condition de la jeunesse, heureusement, ne se résume pas au point que vous venez de dire.
Bien sûr.
À l'instant, on vient d'entendre ce qui se passe sur l'apprentissage, ce qui se passe au titre de la priorité jeunesse, qui est clairement affichée par le gouvernement, c'est-à-dire les enfants, les adolescents et les jeunes, qui sont notre priorité dans des circonstances qui, c'est vrai, sont difficiles. Donc ça suppose des politiques publiques, comme celles qui ont été menées, par exemple, pour les étudiants, avec le Resto U à 1 euro, par exemple, ce type de mesures qui sont faites pour accompagner. Donc je crois que vis-à-vis de la jeunesse, on a deux devoirs. Le premier, c'est reconnaître la difficulté de l'époque, le dire, et afficher de ce fait une priorité dans toutes nos décisions. On le voit encore hier avec le Conseil de défense, ils sont la priorité. Et deuxièmement, dresser des perspectives optimistes. Ça dépend d'ailleurs de chacun d'entre nous, pas seulement du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas baigner la jeunesse de discours toujours gris et toujours nihilistes ou inquiets. On doit dresser des perspectives. C'est ce qu'on fait avec différentes mesures, notamment sur l'emploi des jeunes, mais aussi en
là,
matière
je parlais des restrictions de liberté là, qui commencent à poindre depuis hier soir.
Les restrictions de liberté ne sont pas, fort heureusement, dirigées spécifiquement vers la jeunesse. Tout à l'heure, j'entendais Simon Le Baron ironiser un peu sur certaines mesures, mais vous savez, au cinéma, c'est vrai que si vous enlevez votre masque, c'est beaucoup plus contaminant que si vous le gardez. Donc ça justifie les pop-corns, par exemple. Donc il n'y a pas de petites mesures, il n'y a pas de mesures ridicules. Il y a un ensemble de choses. Il n'y a jamais non plus la mesure magique. Il y a un ensemble de choses à faire. Et c'est vrai qu'au titre des loisirs, tous les Français, et donc les jeunes aussi, ont un impact. Enfin, d'un côté, on ne peut pas nous dire qu'on ne va pas assez loin et ensuite reprocher ceci. Ce que nous cherchons à faire derrière le président de la République, c'est la proportion. C'est vraiment une des idées clés, vous le savez bien, c'est de proportionner les décisions aux réalités sanitaires.
Alors, est-ce que c'est proportionnel pour l'école ? Rentrée normale lundi, alors que l'incidence chez les 5-11 ans a été multipliée par 12 en l'espace d'un mois.
Oui.
Est-ce que ça, c'est proportionné ?
Oui, c'est proportionné parce que, d'abord, c'est un point fixe, si vous voulez. Nous l'avons dit pratiquement dès le début de la crise. Et en tout cas, c'est une doctrine française qui depuis d'ailleurs, je l'observe, a été adoptée par de nombreux pays.
C'est même votre slogan maintenant. Vous en faites un livre,
dire,
l'école
oui.
ouverte.
Et oui, et tout à fait, école ouverte. Et je vais répétant aussi, l'école, c'est bon pour les enfants parce que c'est pas une petite chose, l'école. C'est extrêmement important. Le communiqué de la Société française de pédiatrie que le Premier ministre a cité hier dit tout sur ce point, aussi bien sur la vaccination que sur l'intérêt d'avoir les enfants à l'école.
Vous avez aussi des soignants, 50 soignants et pédiatres dans le JDD qui disent que vous ouvrez l'école au prix d'une circulation maintenant massive du virus.
Le communiqué de la Société française de pédiatrie fait aussi un sort au document dont vous parlez, oui. Qui ressemble fichtrement à un document qui avait aussi fin août, qui nous prédisait le pire pour le mois de septembre avec des signataires comparables. Donc moi je me réfère à des autorités comme le Conseil scientifique, la Haute Autorité de Santé publique et la Société française de pédiatrie. Et nous avons une doctrine, on peut toujours la critiquer, mais au moins elle est là, devant tout le monde, de manière claire, c'est l'école doit être ouverte parce que les enfants en ont besoin.
Mais les Pays-Bas, la Belgique, les Portugais sont moins intelligents que les Français ?
Non, mais parfois
ils peuvent avoir
d'autres priorités, d'autres critères, libre à eux. Mais vous savez, quand je parle avec des interlocuteurs internationaux, il y a plutôt de l'envie qu'autre chose par rapport à ce que nous avons pu faire en matière d'école ouverte, dans la difficulté, au prix de d'efforts énormes des acteurs. Hein, et je salue tous ceux qui, à l'école, au collège et au lycée, sont les acteurs de cette politique de l'école ouverte. Mais c'est évidemment vital, et donc c'est une priorité affichée. Ça ne veut pas dire à n'importe quel prix, nous allons encore durcir certaines conditions.
Alors c'est ça qu'on voudrait avoir. Le protocole sanitaire scolaire est révisé, disait Olivier Véran hier soir. Qu'est-ce qui va changer lundi 3 janvier ?
Alors, nous allons encore affiner avec en dialogue justement avec le conseil scientifique et la Haute Autorité de Santé. Les choses sont, vous le savez, très différentes dans le premier degré et dans le second degré. Dans le premier degré, c'est forcément du côté des tests que nous avons un levier pour aller plus loin.
200 000 par semaine, l'objectif c'était 1 million.
Alors, nous en faisons maintenant beaucoup plus que ça, parce que là, le chiffre auquel vous faites référence, c'est le chiffre des tests que nous réussissons à faire en milieu scolaire. C'est-à-dire, oui, nous en proposons plus de 400 000, et comme il y a 50% d'adhésion de la part des parents, ça fait à peu près autour de 220 000 par semaine. On peut encore augmenter, mais on se heurte à un taux d'adhésion qui reste...
Quel objectif vous avez?
Notre objectif, il est déjà atteint par les mesures qu'on a prises il y a un mois, c'est-à-dire le fait que, désormais, quand il y a un cas positif dans une école primaire, les enfants ne reviennent à l'école qu'avec un test négatif. Et donc, les parents font les tests, et c'est cela qui nous a permis de dépasser même le million de tests au cours du mois de décembre. Donc, ce nouveau protocole fonctionne. La question, c'est qu'aujourd'hui, on en fait faire un test, et probablement, nous allons aller vers deux ou trois tests. Et c'est la précision de cela qui va se faire en dialogue avec le conseil scientifique.
Dans la même classe, de manière itérative, c'est ça ?
C'est-à-dire que pour revenir à l'école, il ne faudra pas seulement avoir présenté une fois un test, mais au moins deux fois à plusieurs jours d'intervalle. Et cet intervalle, nous sommes en train de le travailler, encore une fois, en dialogue avec les autorités scientifiques.
Les capteurs de CO2, c'est un gros sujet. Les syndicats vous demandent d'en faire plus. Il y a une école sur cinq équipée, un collège sur trois, un lycée sur deux en France. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, qu'est-ce que vous annoncez là-dessus?
Comme vous le savez, alors d'abord, la politique d'aération, c'est fondamental. Et donc, rien ne remplacera. Je le redis, tout le monde le sait, mais puis c'est vrai d'ailleurs en milieu scolaire comme dans n'importe quel milieu. Est-ce que vous avez d'ailleurs un capteur de CO2 dans cette pièce? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut très régulièrement ouvrir les fenêtres chaque fois que possible. Et la règle, c'est environ 10 minutes toutes les heures.
Est-ce que vous allez investir dans ces capteurs de CO2?
Oui, nous avons débloqué déjà 20 millions d'euros en soutien des collectivités locales. Je le rappelle, c'est une compétences des collectivités, mais nous sommes en soutien des collectivités quand elles ont des difficultés pour les acheter. Et donc, on a une croissance de ces achats. Avec le Premier ministre, nous adressons une circulaire au préfet et au recteur cette semaine pour leur demander d'amplifier l'action auprès des collectivités locales. Je ne doute pas qu'on va aller vers l'équipement de tous, mais c'est encore une fois une compétence des collectivités. Et c'est important de respecter cela. Néanmoins, nous débloquons de l'argent en soutien des collectivités pour ces capteurs.
Le conseil scientifique s'inquiète. Un tiers d'enseignants en janvier qui seraient touchés directement ou indirectement par l'Omicron ou le Delta. Vous en êtes où dans l'embauche des contractuels?
Alors, ce sujet-là est un des plus importants, en effet, et vaut pour l'éducation nationale comme pour tous les secteurs, c'est-à-dire, vu la contagiosité de ce variant, il y a effectivement un risque d'absentéisme accru. Donc, nous débloquons tous les moyens pour essayer de faire face à cette éventualité, notamment en moyens de remplacement, en capacité de recrutement de contractuels et de vacataires, en mobilisation, par exemple, de jeunes retraités de l'éducation nationale. Bref, tous les moyens sont en ce moment déployés pour faire face à cela. Bien entendu, lorsque ça atteint un certain pourcentage d'absentéisme, notre continuité pédagogique en souffre.
Mais est-ce que vous pouvez garantir que jusqu'aux vacances de février, il y aura une continuité présentielle et sans fermeture de classe?
C'est évidemment le but. Hein. Normalement, chaque établissement a un protocole de continuité pédagogique qui, même lorsqu'il y a de l'absentéisme, doit se traduire par de l'enseignement à distance. Je sais très bien que la situation est imparfaite, qu'il y a des endroits où c'est mieux fait que d'autres, mais avec le temps qui passe, on est en appui des établissements pour les aider à faire toujours mieux. Et donc, notre objectif, c'est en tout cas de garantir cette continuité pédagogique.
D'un mot, niveau 3 ou niveau 4 pour le protocole scolaire? On reste au niveau 3?
Non, je ne vais pas vous faire d'annonce sur cela. Vous savez, on est déjà au niveau 3 pour l'école primaire, on est au niveau 2 pour l'enseignement secondaire. On ne se dirige pas vers une hybridation des classes, mais par contre vers des mesures renforcées qui pourraient relever du niveau 3. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, nous préférons, d'ici à la fin de la semaine, avoir affiné ces points avec le conseil scientifique.
Merci Jean-Michel Blanquer, bonne journée.
Parce que ça s'inscrit dans une vision globale de tout ce qui se passe dans la société aussi.
À bientôt, merci.
Merci à vous.
Merci à vous deux. France Inter.